France Musique.
Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel.
Vous vous aimez Mozart ?
C'est lequel ?
Le dernier.
Ça veut dire que j'ai pas de pot avec la musique.
T'en fais aussi ?
Moi, plutôt crevé.
Vous croyez pas que c'est un peu réservé à une certaine élite ?
France Musique.
La 4 saisons n'est pas qu'une pizza.
Saskia Deville.
Pour Emmanuel Chabrier, il existe trois types de musique. La bonne, la mauvaise et celle d'Ambroise Thomas. Pour Duke Ellington, il y en a deux, la bonne et la mauvaise. Et pour Platon aussi, en quelque sorte, il estime que la musique a une influence sur l'âme. Une influence strictement dichotomique. Elle est soit bonne, soit mauvaise. La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée, nous dit-il. Alors quoi ? Plus on devient musicien, plus on devient philosophe ? Bonjour Jules.
Bonjour.
Bienvenue sur France Musique. Jules le dessinateur. Plus on devient musicien, plus on devient philosophe. Je vous ai vu sourire à cette interrogation.
Oui, parce que j'ai écrit, dessiné un certain nombre d'albums de philosophie en bande dessinée. Il y avait La planète des sages, Platon Lagaffe, toujours avec Charles Pépin. Et ce genre de phrase, c'est le genre de phrase que me sert Charles Pépin à chaque fois qu'il veut démontrer des théories.
C'est un cadeau, ce genre de phrase à
voilà,
dessiner.
Ensuite, moi je fais des blagues, c'est sûr, derrière.
Ben, je compte sur vous, quelle est la blague alors du jour, Jules?
Non, mais vous savez, alors c'est du travail aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans le surgissement, mais parfois il faut un petit peu quand même polir ses arguments.
On est bien d'accord. Alors, peut-être, vous êtes plutôt Duke Ellington, vous êtes plutôt Platon, vous êtes plutôt...
Moi, je dirais que je suis plutôt Duke Ellington parce que, en fin de compte, moi, j'aime les voix, en fait. Et c'est l'instrument principal, en fait, qui m'émeut. Et parce que je suis aussi du côté du langage énormément. Et donc, moi, ce que j'aime dans le dessin, ce sont les voix. Et ce que j'aime dans la musique, ce sont les voix. Et donc, c'est pas forcément la première chose à laquelle on penserait. Mais c'est ce que ça raconte. Je suis quelqu'un du côté du récit, du côté du sens. Et en fin de compte, l'émotion, pour moi, la porte d'entrée vers l'émotion et vers la beauté, c'est les mots. Et c'est la voix, et c'est cette vibration-là, et donc cette rencontre-là qui peut se faire en musique et qui peut se faire en dessin, finalement, en récit. C'est un mariage heureux.
Mais alors, que raconte ce piano que vous avez choisi pour nous, pour ouvrir cette émission, cette valse en si mineur, opus 69 numéro 2 de Chopin, joué ici par Alexandre Tarot?
Alors, il y a un principe quand même qui est directeur aussi, je pense, quand on travaille notamment dans le domaine de l'humour, c'est de savoir bien rire et bien pleurer. Et donc, je dirais, la tristesse gracieuse qui ressort de ce morceau et de pas mal de valses de Chopin, pour moi, correspond à un état d'esprit qui est devant l'effondrement du monde, devant le drame de l'existence et devant les misères de la vie quotidienne. Il y a une vertu du rire, de l'humour, du pas de côté qu'il peut y avoir, que j'essaie d'expérimenter dans mon dessin et dans mes bandes dessinées. Donc,
de la beauté aussi.
Et bien sûr, et tout ça va avec la beauté, c'est cette rencontre-là. Et cet air de Chopin, il a ses caractéristiques d'être à la fois gracieux, vivant et en même temps empreint d'une mélancolie quand même.
Oui, il y a de la nostalgie, c'est même un peu désuet.
Alors c'est pas, oui, mais moi je suis quelqu'un d'un peu désuet en fait. je suis bien trop tôt arrivé pour être millénial, donc c'est mon côté désuet. Oui, c'est comme ça. Et en plus il y a une petite histoire par rapport à cet air qui est que mon petit frère Simon, quand on était enfant, avait joué dans quelques téléfilms. Et il y avait un téléfilm comme ça qui s'appelait L'étrange Noël de Jonas, qui passait sur, je crois, France 3 ou et en fait, il y avait un type effrayant qui jouait dans un magasin de piano, qui jouait cet air et qui fascinait. Il y avait un côté un peu ogre, presque pédophile comme ça. Et mon petit frère arrivait complètement fasciné vers ce mec qui jouait cet air au piano. Et il se retournait comme ça avec cet air mystérieux, le bonhomme en noir. Il disait, tu aimes Chopin, comme ça. Et mon frère était terrorisé. Et donc, c'est un peu une vanne familiale.
Voilà, mais en même temps, vous n'avez pas été traumatisé par Chopin, heureusement pour nous.
Le traumatisme peut faire rire.
Aussi. On va écouter votre second choix musical, Jules, Darius Milhaud, Le bœuf sur le toit. Le bœuf sur le toit, Darius Milhaud, un choix dicté par un traumatisme aussi, Jules.
Non, alors là plutôt c'est la réponse aux matinées un petit peu spongieuses. Il suffit de mettre ça juste pour bondir de son lit. Hein.
C'est sûr.
Et c'est tellement c'est tellement bondissant, c'est tellement drôle. Et puis. En plus, il y a ce côté mélange que moi j'aime beaucoup parce qu'on est à la fois à Copacabana, à Acapulco et au Balbulier. Hein, ce côté cavalcadant comme ça, de rencontre de plein de types de musique et de types d'influences, ce côté sample qu'il peut y avoir avant l'heure de cette musique. Moi, je l'adore aussi dans mon travail parce que de mélanger à la fois la grande culture, la philosophie, l'histoire, les grands penseurs, les références profondes hein, comme ça qui sont des espèces de colonnes vertébrales, la mythologie, le monde gréco-latin, la Bible, et en même temps les conneries des slogans publicitaires, les ritournelles qu'on peut entendre, les conversations de coin de bistrot sur le zinc, que ce soit Silex and the City, que ce soit 50 nuances de grec, on
donc
est vraiment là-dedans.
Deux bandes dessinées et puis deux séries aussi.
Alors c'est ça, parce que oui, à chaque fois, moi maintenant, depuis pas mal d'années, je marche sur deux jambes, qui est celle des albums de bandes dessinées qui sont publiés, et en parallèle quasiment, puisque on progresse simultanément, c'est pas l'un qui serait adapté de l'autre, mais ça dialogue. Des séries qui passent sur Arte le soir, c'est séries courtes, donc 50 nuances de grec, c'est ça, c'est à la fois des comédiens qui viennent incarner plein de personnages comme ça, éclectiques, échappés d'une boîte de Pandore devenue folle, et puis des albums qui justement vont un petit peu plus profondément dans le mythe et dans cet héritage-là, et le font résonner avec nos thématiques contemporaines. Ce truc-là, du bœuf sur le toit, bah ça y est, d'une certaine façon. Et puis aussi, il y a une question de tempo. Moi, je suis un grand fan des Marx Brothers et ils ont très bien démontré avec la comédie hollywoodienne ouverte aux 80 aussi que tout était affaire de tempo. Et le slapstick et bon tout ce qui est évidemment Buster Keaton, Chaplin, les Marx Brothers, c'est avant tout à la seconde près. Il faut que le gag tombe, que le plan se tourne, qu'il se passe un truc. Et dans la bande dessinée, le montage, le découpage, les planches, les dialogues, elles ont cette affaire de tempo-là.
Et oui,
ça a rapport avec la musique pour ça. La rythmique, il faut que ça tombe comme de la haute couture. Il faut que ça tombe sur le corps de la blague et de l'histoire, mais vraiment parfaitement. Il ne faut pas qu'il y ait un pli, une manche, une jambe qui bouchonne un petit peu, parce que ça, on rate quelque chose. C'est de l'orfèvrerie que je retrouve vraiment dans cette musique.
France Musique. Saskia Deville.
Alors, je vous sais, hein, passionné d'histoire, vous avez une formation d'historien, vous avez été professeur aussi, puis vous nous en parlez à l'instant. Je vous ai choisi un enregistrement de 1956 avec le compositeur ici qui dirige l'orchestre du théâtre des Champs-Élysées. Les enregistrements avec cette petite particularité d'avoir ce parfum de l'époque, ça vous touche particulièrement? Vous êtes sensible justement au choix des interprétations?
Oui, et puis j'aime bien l'archéologie du son. C'est-à-dire qu'en fin de compte, encore une fois, on revient à la voix, mais ça vaut pour tout, les premiers enregistrements. C'est-à-dire que les premières galettes qui ont été gravées à la fin du 19e siècle, ce qu'on écoutait sur son phonogramme, ça fait surgir des fantômes à la manière un peu proustienne du petit pavé disjoint dans la cour ou de l'odeur des aubépines, ça, comme le goût, comme l'odeur, la voix, le grain de la voix, le son, fait surgir des univers entiers. Donc c'est vraiment le fil qui peut dérouler une pelote infinie. Et donc quand j'entends des choses, j'ai entendu il n'y a pas si longtemps, l'année dernière, un disque qui a été publié, je ne sais plus exactement où, mais c'était des enregistrements de cantors juifs, de chanteurs de synagogue, d'avant la Deuxième Guerre mondiale, à travers toute l'Europe de l'Est. Donc des gens de Vilnius, des gens de Lublin, de Kiev. Et c'était des enregistrements qui dataient des années 1910, 1920. Et c'est des voix d'un monde qui a été englouti, qui a été anéanti. Et de l'anéantissement reste tout d'un coup surgit la voix. Et cette chose-là auquel on ne pouvait pas s'attendre, et ben c'était particulièrement prégnant. Donc voilà, ça vaut. Moi, j'aime bien écouter les vieux enregistrements.
Alors, vous me parlez de voix et de monde englouti. Moi, j'ai une proposition à vous faire d'écouter. Eh bien, un extrait d'Orphée et Eurydice, qu'ils descendent aux enfers. Gluck à la composition. On écoute Anne-Sophie von Hutter.
Thank you.
Anne-Sophie Vonnoter, le chœur et l'orchestre de l'Opéra de Lyon, John Elliott Gardiner, extrait de Orphée Eurydice de Gluck que vous avez choisi pour nous, Jules. Orphée qui convainc les spectres et les esprits par son chant et qui entre dans les enfers, ici pour aller chercher Eurydice. Vous qui êtes fan de mythologie grecque, ce choix n'est pas fait par hasard, j'imagine.
Bah oui, moi c'est des personnages que je mets en scène toute la journée là en ce moment.
C'est ça.
Dans le dessin animé, c'est Stéphane Bern qui fait la voix d'Orphée, qui
exactement,
est assez précieux comme ça.
Exactement, 50 nuances de grec.
Ouais, c'est assez insolite finalement. Non,
mais alors, arrêtez-vous, on va écouter un extrait.
Voy que ça pète, non, j'ai perdu mon dentifrice.
C'est quoi ce truc, déjà? Oh, de pas oublier d'aller chercher Eurydice aux enfers à 13h. Oh purée, j'avais complètement zappé, quelle cruche.
Oh, mais c'est Orphée, le meilleur chanteur de toute la mythologie en train de se les geler au bord de l'Achéron. C'est pas habituel, ça.
Mais salut, Hermès.
Sérieux, qu'est-ce que tu fais ici?
J'essaie de voir si Charon ne passe pas avec sa barque pour me faire traverser le fleuve. Je dois aller dans le Tartare pour rechercher Eurydice.
T'as pas l'appli en fer? Ils sont super efficaces.
C'est pas cette compagnie de transport privé qui fait de la concurrence à Charon et qui paye pas ses impôts en Grèce?
Oh, je chipote pas. Moi, j'utilise plus que ça pour accompagner les âmes chez Hadès.
Et voilà, Orphée, qui vous a inspiré un épisode de 50 nuances
de Grec.
C'est super
d'avoir mis l'extrait.
Ah, c'est extra. Stéphane Bern est génial.
Oui, il y a des surprises comme ça.
Là, oui, c'est très surprenant.
Ouais. Et du coup, en fait, je sais pas si vous avez vu, on parlait de l'histoire et de la transversalité, finalement, de pouvoir plonger dans des couches, exhumer des choses. Moi, c'est ce que je fais, voilà, avec, bon, la mythologie gréco-latine, certes. Mais, par exemple, je trouve qu'il y a une vraie ligne de partage, la Renaissance est passée par là. Mais entre le baroque, et l'opérette, c'est-à-dire entre Gluck et la belle Hélène, il y a ce côté feuilletonnant, qu'il y a dans la mythologie déjà. C'est une telenovelas avant l'heure, hein. Voilà, les portes claquent, on se trompe, on couche ensemble, on se trahit. C'est-à-dire que Netflix n'a rien inventé.
Aussi.
Voilà, c'est ça. C'est Gregflix.
Gregflix, exactement, bien trouvé. Alors, vous parlez tout le temps de cette fascination pour la voix. Ici, on a aussi cette puissance de la voix. Est-ce que vous chantez, Jules?
Je chante et puis, vous voyez, j'ai pas une voix très heureuse. C'est-à-dire que j'aimerais bien avoir une... J'adore être malade un peu. C'est l'avantage d'habiter à Paris dans l'hémisphère nord. C'est qu'on est souvent enrhumé. Et là, tout d'un coup, on a une voix bien plus grave avec une matière. Alors que sinon, voilà, je suis une petite voix glapissante, mais j'aime bien chanter, oui, voilà, mais je l'impose à assez peu de gens, Dieu merci.
Ça reste un petit peu privé, jusqu'ici,
après,
ça
je chante tout le temps, je travaille tout seul, donc je pense que si je travaillais dans un open space à la Défense, on m'aurait défenestré depuis longtemps.
Alors, j'ai un petit peu fouillé dans tout ce que vous avez dessiné depuis vos débuts. Jules, j'ai retrouvé un album intitulé « Mozart qu'on assassine » paru en 2006, dans lequel vous attaquiez justement au cas Mozart. Est-ce que c'est quelque chose qui va revenir dans votre carrière? C'était un petit peu anecdotique, vous n'étiez pas tout seul sur l'album. Est-ce que justement votre passion pour ce répertoire pourrait se retrouver au cœur d'un album à venir?
Pourquoi pas? En fait, le problème, c'est que, et je pense que c'est l'objet même de cette émission d'ailleurs, il y a cette dimension, je dirais, de consommation de culturelle très élitiste, qui fait que ça exclut d'emblée énormément de gens par, je dirais, a priori, anthropologique envers la musique classique. Et mon travail, justement, il a vocation à ouvrir des choses qui sont censées être inaccessibles pour un certain nombre de gens, alors que ça fait partie du patrimoine universel, et que, je dirais, chaque personne a profit, a vertu à se nourrir de ça. Et en fait, toutes les barrières, je dirais, un petit peu de snobisme ou, je dirais, socio-économique, qui font qu'on peut pas toucher du doigt cette beauté et cette puissance, peut-être par, justement, la bande dessinée, par ces clins d'œil-là, on peut décloisonner des choses. J'aime pas trop le mot décloisonner. Déboulonner des statues, encore une fois.
A priori.
Voilà. C'est pas ce que je fais. Au contraire, j'essaie de construire quelque chose en plus pour aller plus loin, plutôt que se retourner compulsivement vers des erreurs passées. Mais voilà, oui, pourquoi pas. En tout cas, quand on avait fait le Mozart qu'on assassine, cet album, c'était une biographie de Mozart en dessin. Moi, j'avais fait la première partie, justement, de l'enfance de Mozart. Je m'étais tellement marré. Il est extraordinaire à dessiner.
C'est un personnage
génial.
J'avais
fait une espèce de grosse tête un peu. Et oui, on pourrait faire ça. Comme on a eu la planète des sages, encyclopédie de philosophie, il pourrait y avoir un truc à la baguette, un petit peu comme ça, avec les grands de la musique. Mais ceci dit, Parmi les gens qui dessinent merveilleusement autour de la musique, il y a évidemment un des maîtres, qui est Sempé, avec ses albums, ses recueils, quelques musiciens, etc. Et on peut difficilement faire mieux. L'opéra et la musique classique, c'est lui, le maître.
Bien, à lire donc, à lire en parallèle à cette intégrale de La Planète des Sages qui paraîtra chez Dargaud. Ce sera eh bien, le 26 novembre prochain. Excellente encyclopédie, vous le dites, pour aller plus loin avec humour.
On a essayé de mettre 5000 ans de pensée mondiale dans un seul bouquin.
Voilà,
donc,
bonne chance.
C'est hyper compact.
Mais c'est passionnant à lire. Merci beaucoup, Jules, d'être passé nous voir dans cette émission. On était vraiment ravis de vous recevoir. Merci aussi à toute l'équipe, Émilie Vallat, Pauline Boisaubert et Antoine Espel. Et on se quitte avec votre dernier choix musical. Jules, eh bien, c'est Gabriel Fauré, Après un rêve. Régine Crespin.
Voilà, I have a dream, Martin Luther King, Régine Crespin.
À réécouter sur francemusique.fr.